c'est Marco. Aujourd'hui, maman va vous parler de diversification.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des parents et des futurs parents. En ce mois d'octobre, nous allons parler diversification alimentaire du tout-petit. Au programme, deux épisodes différents. Le premier, aujourd'hui, où nous parlerons diversification dite classique, et le second, dans 15 jours, sera consacré à la diversification menée par l'enfant, ou bien DME. Pour m'accompagner, deux diététiciennes nous éclaireront. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se passe la diversification classique, quand, comment commencer, dans quel ordre introduire les aliments, y a-t-il des aliments ou des choses à éviter, qu'en est-il des allergènes, bref, tout un programme. Alors, bonne écoute.
Bonjour Séverine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter qui tu es, ton parcours et ce que tu as fait jusqu'à présent.
Alors bonjour Alix, merci. Donc j'ai débuté mon activité il y a plus de 10 ans en cabinet libéral. J'ai ensuite travaillé dans un centre de santé à Chennevières et j'ai fait pas mal d'animations milieu scolaire, crèche, école primaire, collège, lycée, auprès des assistantes maternelles aussi.
D'accord, donc pas mal avec les enfants.
Beaucoup, voilà.
À l'heure actuelle, tu continues de faire la même chose ou tu as une activité autre en libéral ou à l'hôpital, je ne sais pas.
Aujourd'hui, je continue mon activité en donnant des consultations à la maison de santé pédiatrique de Noisy-le-Grand.
D'accord, ça marche. Donc aujourd'hui, on va parler diversification avec toi. Pour commencer, tout simplement, mais qu'est-ce que c'est que la diversification ?
Alors, la diversification, elle consiste à introduire des aliments à partir de 4 à 6 mois quand l'enfant est prêt, dès que l'estomac est mature, pour faciliter la digestion et lui faire connaître en fait tous les nouveaux aliments.
Donc on commence classiquement entre 4 et 6 mois, si j'ai bien compris, la diversification. Mais est-ce qu'il y a des cas un peu particuliers pour lesquels finalement cette diversification va se faire à un autre moment que cette période-là de 4 à 6 mois, ou c'est vraiment pour tous les bébés la même période en fait où on va faire la diversification?
Donc il y a eu un cas particulier. Pour les enfants qui sont prématurés, il faut éviter de commencer avant 6 mois. Sinon, il est conseillé de commencer à partir de 4 mois, du fait de la maturité de l'appareil digestif.
D'accord. Cette diversification, elle est donc là pour présenter un maximum de goût et découvrir de nouveaux aliments, faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants. Mais est-ce que la date de début est importante pour une autre raison ? Parce que, en fait, on entend souvent dire que la diversification, à cette période-là, c'est important par rapport aux allergies. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, il vaut mieux effectivement faire goûter le maximum d'aliments dès le début de la diversification. Enfin, on va peut-être commencer par les légumes, puis les légumes à midi, les fruits à 4 heures. Après, oui, ça peut éviter certaines allergies si on commence tôt. Maximum d'aliments avant 3 ans, en fait. Enfin, de toute façon, le maximum au tout début et avant 3 ans pour le goût aussi, pour leur faire connaître les nouveaux goûts.
Est-ce qu'il y a justement certains aliments qui vont être interdits et qu'on ne peut pas donner à cause du risque d'allergie, ou au contraire, tous les aliments sont permis et proposés et à proposer sans exception ?
Non, donc tous les aliments peuvent être proposés dès le départ. Sauf que, voilà, il faut faire attention, c'est un à la fois. Voilà.
Ok, donc là, pour rappel, on parle de diversification classique, puisque maintenant, il y a d'autres méthodes de diversification, notamment la DME, donc la diversification menée par l'enfant, dont on parlera dans 15 jours. Donc, concrètement, comment ça se passe ? À partir de 4 mois, on leur donne quoi, comment, en quelle quantité ?
Alors, on peut commencer par les légumes, à partir de 4 mois, à midi, par exemple. C'est le mieux. Le lait reste quand même l'aliment principal. D'accord ?
D'accord, et donc pour les légumes, on parle de quelle quantité au début ? C'est une petite cuillère ou peu importe ?
Ça va dépendre de chaque enfant, mais quelques petites cuillères à café au tout début. Il faut vraiment y aller au rythme de l'enfant et jamais le forcer surtout.
Pour la texture, on commence évidemment par des purées lisses.
Voilà.
Il y a évidemment des petits pots adaptés dans le commerce pour le début, mais si les parents veulent faire maison, pour que ce soit bien lisse, ils peuvent rajouter quoi ? De l'eau, autre chose ?
Elles peuvent rajouter du lait.
Est-ce que dans un premier temps, dans les petits pots, donc on a dit on peut mettre un peu d'eau ou de lait, enfin du lait maternisé ou du lait maternel, évidemment, on ne va pas mettre du lait de vache classique, hein, du commerce, pour commencer. Mais est-ce qu'on peut mettre ou est-ce qu'on doit mettre un peu d'huile ou de matière grasse ?
Oui, on peut introduire dès 4 à 6 mois une petite cuillère à café ou même une petite noisette de beurre dans la purée.
Ok, ça marche.
D'accord, donc on a parlé des légumes, on va passer aux fruits. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut leur proposer au goûter. Après, j'imagine que si c'est un autre moment, c'est pas forcément très grave, parce que bon, voilà, hein, si bébé est chez la nounou, que c'est plus facile pour les parents de faire le soir, c'est possible, finalement, ça change pas grand-chose. Chacun fait à son rythme de vie familiale, finalement.
Exactement.
Après avoir introduit les légumes et les fruits, quand est-ce qu'on introduit les protéines? Et puis, de la même manière, dans quelle quantité, comment, etc.
Donc, c'est bien d'introduire les protéines à partir de 6 mois.
D'accord.
Entre 6 et 9 mois, à raison de 10 grammes par jour. Ça fait 2 cuillères à café.
Ok. Et de toute façon, on les mixe avec les légumes, non?
Voilà, justement, non. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est bien pour faire justement découvrir les goûts de séparer au départ la protéine de la purée.
Oui, pour qu'ils puissent bien identifier le goût des protéines, finalement, en fait.
Voilà.
Et à ce moment-là, c'est pareil, on les mixe. Et pour que ce soit plus lisse, on peut rajouter un peu d'eau, de lait. Après, c'est plus tard aussi. Donc, bon, peut-être qu'on peut donner directement un peu moins lisse que dans les débuts avec les légumes et les fruits aussi.
Et une fois qu'ils connaissent le goût, on peut mixer la totalité.
Ok, ça marche.
Quand est-ce qu'on évolue un peu sur la texture, on va dire ? Parce qu'au début, c'est purée lisse. Ensuite, quelles sont les étapes jusqu'au morceau ? Et est-ce que tu peux nous donner un peu des âges, grosso modo, hein, auxquels on va avancer dans ces morceaux ?
Alors, il n'y a pas de règle, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre, on dit que ça dépend de si l'enfant se tient assis ou pas, de comment il évolue, des dents, etc. Donc, il faut juger en fonction, au fur et à mesure, de l'évolution de l'enfant.
Ouais. On essaye une purée un jour un peu plus.
Voilà, compact, voilà, voilà. Et après, petit à petit, on passe aux morceaux et voilà.
Et les morceaux, toi, tu conseilles de les présenter comment ? Plutôt des petits morceaux mélangés à la purée ou au contraire, les donner seuls, bien séparément ?
Peut-être toute seule, je préfère donner seule.
C'est peut-être mieux en effet par rapport à la mastication aussi.
Voilà.
Ok.
Est-ce qu'il y a des petites erreurs à éviter ou des astuces à connaître quand on commence la diversification ?
Déjà au niveau du choix des aliments, il y a certains petits trucs pour faire attention. Au niveau des poissons, il y a des poissons qui contiennent des polluants. Ça, la liste, elle est accessible sur Internet, on peut la retrouver, donc il faut éviter de les donner. Ensuite, tout ce qui est fruits à coque quand même, et puis... Les légumes secs, on va les donner plutôt sous forme écrasée, en purée. Les légumes secs, c'est par rapport à la digestion.
Et on peut leur donner à n'importe quel âge ?
Oui, on peut commencer à n'importe quel âge.
Juste, il faut bien les écraser et les mixer, en fait.
Voilà.
Autre chose sur les interdits ?
Ne pas donner de miel avant 1 an, pour le risque infectieux.
D'accord, oui, c'est là, un truc qui est pasteurisé.
Voilà, exactement. Tout ce qui est aussi fromage non pasteurisé, enfin fromage au lait cru, le lait cru, etc., on évite tout ça.
Oui, j'imagine que c'est un peu pareil pour tout ce qui est cru. Les sushis, la viande crue, c'est pas franchement recommandé chez les plus petits, quoi.
Ouais, alors ne jamais forcer l'enfant.
D'accord.
Parce que chacun son rythme. Donc, au niveau du goût, tout ce qui est... parce que l'enfant peut refuser, mais il faut continuer de présenter jusqu'à des fois 8 à 10 fois le même aliment et finit en général par l'accepter.
Et si on présente un nouvel aliment en morceaux, type les carottes, il l'avait accepté en purée, mais là, en morceaux, il refuse. Qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, ça peut, mais c'est une question aussi d'habitude. Enfin voilà, mais ne pas le forcer, mais le laisser aussi découvrir lui-même tout ce qu'il y a dans l'assiette.
Après, une façon de découvrir un nouvel aliment, ça passe aussi par la vue, le toucher, l'odorat, donc on n'hésite pas à les laisser jouer, patouiller avec ce qu'il a dans l'assiette, non ?
Voilà, justement, ça lui permet de découvrir les textures.
Faut juste prévoir un bon bavoir, voire une bâche à mettre par terre ou même le karcher.
Exactement. Exactement. Oui, non, faut les laisser. Faut laisser découvrir.
Ça marche, ok.
Concernant les produits laitiers, est-ce qu'il y a des recommandations particulières ?
Il faut éviter juste tout ce qui est au lait cru. Et sinon, on n'est pas obligé de donner des produits pour bébé.
Et est-ce qu'on est obligé de donner des yaourts ou finalement, s'il préfère boire son lait, ça suffit?
On n'est pas obligé. Le yaourt contient des bonnes choses, hein, des bonnes bactéries, etc. On peut continuer sur le lait, qui est l'aliment principal, de toute façon.
C'est vrai que la maman qui allait, par exemple, en général, elle ne donne pas forcément beaucoup de produits laitiers en dehors des tétés. Donc avec les biberons, c'est un peu pareil, finalement.
Voilà, exactement.
En avançant dans la diversification, le bébé va manger de plus en plus de purées, compotes, etc. Mais quelle est la quantité minimale de lait recommandé qu'il doit continuer à boire au quotidien?
Alors, 500 à 800 ml de lait, c'est important.
Et jusqu'à quand doivent-ils garder cet apport de lait?
500 ml jusqu'aux 3 ans. Mais après, de toute façon, même après, j'allais dire, parce que le lait, c'est, on va dire, 250 dans un biberon le matin ou dans un bol, ça peut être 200 ml le matin. Et yaourt, c'est un équivalent. Donc, du coup, 2 yaourts par jour plus une portion de fromage après 3 ans, ça va vite, ça va vite. Donc, on les maintient, en fait, tout le temps, j'allais dire. Les 500, hein, 500.
Ok, donc on maintient les 500 ml de lait en équivalent jusqu'à 3 ans. De toute façon, on continue les produits laitiers aussi après, évidemment, par rapport aux apports de calcium. Pour que les parents s'y retrouvent un peu, juste voilà, donc pour rappel, 250 ml de lait, ça apporte à peu près 300 mg de calcium. Ça équivaut à 2 yaourts, ou bien 4 petits suisses, ou encore 30 g de gruyère ou de comté, par exemple. Et on rappelle que la crème et le beurre ne sont pas à compter dans les équivalents calciques, ça n'apporte que du gras. Les bébés au lait maternisé, ils vont bien évidemment prendre du lait premier âge jusqu'à 6 mois, puis du lait deuxième âge jusqu'à 1 an, avant de passer au lait troisième âge ou lait de croissance, qui est conseillé jusqu'à 3 ans. Ça veut dire qu'on ne propose pas de lait de vache classique avant 3 ans?
On peut proposer même avant, mais du lait entier, de temps en temps. Ça veut dire qu'en dépannage, il n'y a pas de souci, le lait entier. Pourquoi? Parce que, bah, il contient toutes les matières grasses, et puis c'est là où on trouve le meilleur nutriment.
D'accord, donc c'est possible avant 3 ans, mais on essaye au quotidien de garder le lait de croissance. D'un point de vue apport nutritionnel, c'est quand même plus adapté à ce qu'ils ont besoin.
Oui, le lait de croissance, mais on peut de temps en temps donner du lait entier.
Par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il faut proposer parfois un grand nombre de fois en fait, les aliments avant qu'ils soient acceptés, je crois qu'il y a une période assez courante chez les enfants où il y a régulièrement des refus de certains nouveaux aliments ou même des aliments qu'ils mangeaient auparavant et dont ils ne veulent absolument plus. Est-ce que tu peux nous parler de cette période? Comment ça s'appelle? Quand est-ce que ça arrive en général et comment la gérer au mieux?
D'accord, donc c'est une période en fait de néophobie qui peut commencer dès le départ, mais avant 6 ans, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut représenter l'aliment plusieurs fois jusqu'à ce que l'enfant l'accepte, sans jamais le forcer. Et c'est après 6 ans où là, on peut s'inquiéter et de pousser un peu plus loin pour voir s'il y a quelque chose d'anormal, on va dire.
Et quand on repropose les aliments, j'imagine que c'est mieux de les reproposer de manière un peu récurrente, enfin, pas tous les jours, parce que l'enfant va se lasser, mais s'il le voit qu'une fois tous les X mois, c'est peut-être aussi plus difficile pour s'y habituer, non?
Non, il n'y a pas de rythme à respecter. Faut peut-être pas trop attendre non plus, parce que si on attend 8 mois, oui, c'est sûr que 8 mois après, la diversification, ça va vite aussi. Donc voilà, oui, ne pas trop attendre et le présenter seul.
D'accord.
Toujours, parce que le goût, sinon, n'est pas reconnu. Donc, voilà.
Ok. Et est-ce que, enfin, pas au tout début évidemment, mais quand il commence à manger des repas qui ressemblent un peu plus à une alimentation de table, donc comme les adultes avec des légumes, des féculents, de la viande, etc. Est-ce que c'est mieux, par exemple, d'avoir une assiette avec plusieurs compartiments pour que chaque aliment soit bien séparé les uns des autres et que bébé puisse aller picorer à droite à gauche ou, en fait, on peut tout mélanger?
Plutôt séparément, justement pour différencier les goûts.
Et alors, à partir de quand on peut leur proposer des aliments mélangés sous forme de purée ou de plats mijotés, enfin, sous quelque forme que ce soit?
Une fois qu'un aliment est accepté seul, on peut le mélanger à un autre.
Quand on leur présente un aliment lors du repas et qu'ils ne veulent pas le manger, est-ce qu'on va le remplacer par autre chose ou alors on les laisse ne pas le manger et finalement c'est pas grave parce que c'est qu'une petite portion de leur repas et donc on considère qu'ils vont équilibrer leurs apports sur la journée?
Il y a les deux, moi je dirais On peut lui changer à cet âge-là, il découvre les aliments, donc il en veut pas, c'est que le goût lui plaît pas, on va lui représenter peut-être pour qu'il aime la prochaine fois ou dans la troisième fois, la quatrième fois, voilà. On peut lui remplacer, mais après, c'est aussi peut-être des mauvaises habitudes à donner.
Il faut pas non plus qu'il pense qu'après, à chaque fois qu'il n'aime pas quelque chose, on va leur proposer autre chose qu'ils aiment, sinon ils vont jamais rien découvrir et puis ça va devenir de plus en plus compliqué pour les repas aussi.
Voilà.
Dans la période de néophobie, si l'enfant est vraiment extrêmement sélectif dans le nombre d'aliments qu'il accepte de manger, j'en sais rien, il mange que des pâtes, des pommes de terre, du jambon et des carottes cuites, je grossis un peu le trait, mais voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, il accepte vraiment très peu d'aliments. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou quelqu'un à voir pour améliorer ça?
Non, parce que en fait, le tout début de la diversification, c'est vraiment une phase de découverte, donc... Les besoins sont couverts par le lait au tout départ. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire goûter le maximum. Il n'y a pas de raison après qu'il refuse. Si les parents suivent bien les recommandations de représenter l'aliment, de voilà, pas au début. Après, bon, bah, bien sûr, après, petit à petit, ça remplace, ça devient une alimentation familiale. Et du coup, là, c'est censé couvrir les besoins.
Au final, donc, dans la période de diversification, ça ne pose pas tellement de problèmes qu'il soit un peu sélectif. Puisque les aliments solides ne sont pas là pour l'apport nutritionnel, mais donc voilà, c'est à voir sur du long terme, quoi. Si ça dure un peu plus, là, ça peut devenir compliqué. Alors, à partir de quel âge on considère que l'enfant a une alimentation de table, donc un peu comme nous, tout en adaptant les quantités aux besoins, évidemment. Mais est-ce qu'ils sont censés manger comme des grands, quoi, à 2 ans, 3 ans?
À partir de 2 ans, l'alimentation, elle est quasi identique. Ça dépend aussi de chaque enfant au niveau des textures, etc. Mais bon, à 3 ans, sûr, voilà, c'est fait. C'est.
De toute façon, à 3 ans, pour l'école, ils vont manger à la cantine. Et là, les repas, ben, c'est des repas comme les grands, on va dire. Donc, c'est la, on va dire, la deadline.
Voilà. Ils sont censés être autonomes, tout aimer, voilà. Mais voilà, si la diversification est bien faite, ils aiment le maximum de choses. Après...
Est-ce que ça aide aussi de justement leur présenter plein de choses différentes quand ils sont petits, pour que plus grands, ils aient un panel, on va dire, d'aliments qu'ils acceptent de manger plus grand?
Exactement, voilà, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut leur présenter le maximum d'aliments pendant la phase de diversification.
Ok. Au niveau des boissons, bon, j'imagine qu'au début, évidemment, c'est de l'eau, mais est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour le tout petit? Concernant les boissons, tout simplement.
De l'eau plate, c'est la seule boisson qui est indispensable. Après, tout ce qui est eau pétillante, soda, etc., c'est... On limite, mais vraiment.
Oui, bien sûr.
Alors, je sais qu'il y a des familles qui, pour calmer le bébé, donnent de l'eau avec du sirop. Là, il faut vraiment éviter tout ça, parce qu'après, ils ne veulent plus boire d'eau plate.
De toute façon, au niveau du sucre, on est bien d'accord, au départ, c'est le moins de sucre possible pour le bébé. Même dans les yaourts nature, par exemple, on ne met pas de sucre.
Exactement. Les yaourts, on essaie de les donner normalement sans sucre, les habituer sans sel, sans sucre. Les matières grasses, bah, crues, justement, on en a besoin, donc il en faut. Hein. Mais le sucre, en fait, le sucre rapide, on n'en a pas besoin, en fait, pour vivre.
D'accord.
On peut s'en passer. On a juste besoin des sucres qui sont contenus dans les céréales.
Ok, donc pas de sucre rapide, pas de sucre, pas de confiture, de choses industrielles sucrées, mais des sucres complexes, type céréales.
Voilà, des sucres lents, des glucides complexes, on appelle ça.
D'accord. Donc en ce moment, on est en été, c'est la période des apéros, des barbecues. Si on a un petit bout, donc évidemment pas qui a 2-3 mois ou même 6, mais qui a, je ne sais pas, entre 1 et 2 ans, et que sur la table, il y a de la charcuterie. Est-ce qu'il a le droit ou c'est vraiment interdit?
Il a le droit. Si c'est exceptionnel, il faut vraiment que ça reste une fois, vraiment de temps en temps.
D'accord, donc il n'y a pas de contre-indication vraie à manger de la charcuterie, mais nutritionnellement parlant, ce n'est pas l'idéal, donc on évite un maximum, c'est bien ça?
On attend, vraiment. Enfin, on attend le plus longtemps possible. Si, exceptionnellement, il y en a, on peut autoriser une fois ou deux. Il n'y a pas de problème.
Ok, ça marche.
Pour les yaourts, on a vu les recommandations des produits laitiers, etc. Mais si à la maison, il y a un grand frère, une grande sœur, et que il mange ou elle mange des crèmes dessert, type lit et joie ou autre. Est-ce que c'est autorisé? Pas du tout, ou c'est juste déconseillé pour les plus petits?
Alors, c'est autorisé exceptionnellement, mais ça n'apporte pas ce qu'apporte un vrai yaourt. Voilà, puisque c'est du gras plus du sucre. Il y a un petit peu de produits laitiers, mais en fait, ça ne contient pas de calcium.
D'accord, donc là, pour le coup, je n'avais vraiment aucune idée. Tu vois, donc comme quoi on apprend tous les jours, hein, je m'endormirai moins bête ce soir, comme on dit. Donc voilà, vraiment, les crèmes dessert, les choses comme ça, de manière exceptionnelle, finalement, peu importe l'âge, c'est pas l'idéal, de toute façon, de ce que je comprends.
C'est surtout très sucré, mais bon, voilà. Et très exceptionnellement, parce que très sucré, ça les habitue aussi mal. Ouais. Donc, voilà.
Si des parents se posent encore des questions sur cette étape de la diversification, et qu'ils veulent se faire accompagner, est-ce qu'ils peuvent aller consulter une diététicienne? Finalement, comment la choisir? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus spécialisées en pédiatrie? Ou toutes sont formées de base à ces problématiques de la diversification?
Oui, normalement, toute diététicienne est capable et dans la possibilité de faire justement une aide pour l'introduction des aliments, pour la diversification. Donc, oui, justement, oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut aider vraiment.
C'est vrai que pendant la consultation avec le pédiatre, ça dure à peu près 20 minutes, 30 minutes max. Donc il y a plein de choses à dire. En général, on va récupérer une petite fiche, mais on ne peut pas rentrer dans les détails. La consultation en diététique, elle dure combien de temps en général?
Une consultation diététique, ça peut durer 3/4 d'heure. Donc là, c'est vrai qu'on a le temps de détailler les étapes.
Oui, et puis finalement, éventuellement, on peut refaire un point quand le bébé est plus grand, vers un an par exemple, pour être sûr qu'on a bien adapté son alimentation à ses besoins, non?
Voilà.
Alors, pour finir, je vais te poser une petite question surprise que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un petit truc qui t'aide dans ta vie quotidienne quand tu as un petit coup de mou, que les enfants ont pompé toute ton énergie? Je sais pas, par exemple, aller faire du sport, lire un livre ou manger un petit carré de chocolat. Quel est ton truc pour recharger les batteries?
La seule chose qui m'aide à te le dire, c'est la photo. C'est ma passion. Oui, si ça va pas, j'oublie tout. Quand je me mets à traiter les photos ou à faire de la photo, ça m'aide. Voilà. Donc voilà. Je suis pas spécialement sportive, mais non, je fais du sport aussi. Mais vraiment, le truc qui m'apaise, c'est la photo.
C'est un bon truc. Chacun son truc, comme on dit. Hein, ça fait beaucoup de trucs, tout ça. Mais enfin, voilà. Chacun sa petite méthode pour recharger les batteries. Assouvir sa passion, je pense que c'est une très bonne façon de le faire. Bon, eh bien, je crois que cette fois-ci, on a fait le tour. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que ce petit échange t'a plu. Et puis, je te dis à bientôt.
Merci à toi.
Avant de conclure cet épisode, je vous propose de faire le point sur le matériel adapté en cette période de diversification alimentaire. Au début de la diversification, votre bébé n'a pas la capacité motrice au niveau de sa lèvre supérieure pour racler une cuillère creuse. On privilégie donc des cuillères de faible profondeur et avec une faible capacité, comme la cuillère Tum Tum, ou Tum Tum, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui a un double embout, lui permettant de s'adapter au progrès de bébé au niveau quantité. Vous avez aussi la cuillère Num Num ou Num Num, je vous mettrai les références. À partir de 9 mois, il va pouvoir passer à des cuillères plus creuses. À ce moment-là, privilégiez des cuillères avec des manches courtes pour que bébé puisse participer et tenir la cuillère lui aussi, ce sera plus pratique. Je vous ferai de toute façon une petite publication sur les réseaux pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Concernant les contenants pour l'eau, dès 6 mois, vous pouvez leur faire boire l'eau avec une baby cup, un genre de verre miniature adapté à la taille des mains de votre bout de chou. La tasse à paille est aussi une possibilité. Attention toutefois, la paille doit être assez courte et il ne doit pas la pincer. Enfin, les tasses 360 sont utilisables en général un peu plus tard, vers 8-9 mois, car avant, le bébé a souvent tendance à pincer le bord de la tasse et ne pas aspirer. Qu'en est-il de la tasse à bec, qu'on a tous eu petit? Eh bien, on oublie tout simplement. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que pour boire avec la tasse à bec, il doit faire une extension au niveau cervical pour mettre la tête en arrière, et ce n'est pas idéal pour sa petite nuque. La seconde raison, c'est qu'il va avoir tendance à pincer avec les dents le bec. Et en plus de ça, il n'aspire pas, ça va couler tout seul. Dernière petite chose, un petit point sur les capacités motrices de votre bébé. Au niveau de la mastication, entre 4 et 6 mois, il va être au stade, on va dire, du serpent, c'est-à-dire qu'il pousse avec sa langue vers l'avant. C'est le moment pour les purélis. Vers 6 mois, il passe au stade lézard. Il va commencer à écraser les aliments avec sa langue contre le palais. On peut donc introduire des petits morceaux fondants, type pâtes bien cuites, des petits morceaux de carottes, pareil, bien cuites, de butternut, potiron, ces choses-là. À partir de 9 mois, il passe en mode crocodile, c'est-à-dire qu'il commence à mastiquer avec des mouvements d'ouverture-fermeture de la bouche dans le sens vertical. Et enfin, à partir de 12 mois, il va passer vers une mastication qui ressemble plus à la nôtre, c'est-à-dire un peu comme une vache ou un chameau. Oui, vous mastiquez comme les vaches et les chameaux. Donc en fait, la mâchoire à ce moment-là, elle fait des mouvements d'ouverture-fermeture dans le sens vertical, mais en plus, il y a des petits mouvements latéraux de droite à gauche pour que les aliments passent d'un côté à l'autre lors de la mastication. Merci d'avoir écouté cet épisode. Mon invité et moi-même espérons avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais il vous en reste quelques-unes ou que vous souhaitez être accompagné, sachez que les diététiciennes sont à même de le faire, alors n'hésitez pas à les contacter. Un mini récap de ce qu'on vient de se dire. On commence la diversification entre 4 et 6 mois révolus. C'est important notamment par rapport aux allergènes. Plus on présente un grand nombre d'aliments tôt, moins il y a de risque d'allergie. Et plus votre enfant aimera des choses variées plus grand. Pour ce qui est des textures, on commence par le lisse et petit à petit, on avance vers les morceaux. Pour cette étape des morceaux, on regarde son bébé. Ayez confiance en lui et en sa capacité et vous verrez que tout se passera bien. Une dernière petite info pour la route. Un des points importants pour que la diversification et même les repas plus tard se passent bien, c'est de ne jamais forcer bébé ni les enfants à manger de quelque manière que ce soit. Je m'explique. Dire à son enfant « Allez, mange une cuillère pour maman, une cuillère pour papa ou pour mamie, etc. » c'est déjà un peu le forcer, car il veut vous faire plaisir, donc il va manger une ou deux cuillères dont il n'avait pas vraiment besoin ni envie. De la même manière, on ne prive pas de dessert s'il ne goûte pas un aliment ou s'il ne finit pas son assiette. Et on ne doit pas faire de chantage. Tu finis ton assiette et après t'auras ça. C'est pas vraiment la bonne façon d'aborder les choses. Toutes ces petites techniques, entre guillemets, qu'on a tous plus ou moins, je pense, connu petit, sont plutôt contre-productives. Le repas doit rester absolument un moment de plaisir pour bébé et il doit apprendre à respecter sa faim.
Pour rappel, le prochain épisode qui sortira dans 15 jours sera à nouveau consacré à la diversification, mais cette fois-ci on parlera DME, diversification menée par l'enfant. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer la sortie du prochain épisode. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et de vos bouts de chou. Aujourd'hui, je laisse le mot de la fin à ma fille.
Merci d'avoir écouté ma maman et son invité. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.